Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le nombre de morts augmente d'heure en heure en Syrie. Une centaine, rien qu'hier, dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce matin, nous reviendrons sur la situation sur place dans un instant. Et vous entendrez un médecin français accablé qui va sur place régulièrement.
Zoom ensuite sur une grève en Ukraine, suivie par près de 10 000 mineurs. Ils ne sont pas payés depuis le mois de décembre.
Guillaume Pépi est persuadé que l'écoute et la concertation vont permettre d'éviter une grande grève. Le patron de la SNCF répondait à la CGT et Force ouvrière ce matin, en pleine concertation sur la réforme ferroviaire, vous l'entendrez.
Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur la polémique autour de Michel Déon, finalement inhumé dans la capitale face à la pression d'une centaine d'intellectuels, la mairie de Paris a cédé.
Et puis à 8h16 dans le billet politique de Frédéric Sey, cette question, pourquoi voit-on du machiavélisme partout ? On les appelle les civils, pris dans une guerre interminable en Syrie. Hommes, femmes, enfants, professeurs, tailleurs, commerçants, voilà qui est moins impersonnel. Une centaine de civils, 100 personnes, sont encore mortes rien qu'hier dans l'enclave rebelle de la Routa, pilonnée par le régime de Damas. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Du service international de France Culture, les forces de Bachar el-Assad intensifient leurs frappes depuis quelques jours.
Depuis le 5 février exactement, pas un jour ne passe sans que les habitants de la Routa ne soient soumis à des raids aériens massifs. On pensait avoir atteint un pic de violence la semaine dernière avec plus de 250 morts en 5 jours. La journée d'hier a été la pire qu'ait connue l'enclave rebelle depuis 2015. Le régime affiche clairement sa volonté de reprendre la Routa. Il a massé des renforts militaires tout autour de la zone en vue d'une offensive terrestre. En attendant, il répète le même scénario qu'à Alep, assiégé, affamé. La population se retrouve piégée sous les bombes, sans aucun espoir de s'en sortir. Le but est de contraindre les derniers rebelles qui appartiennent à deux factions islamistes de déposer les armes. Il faut ajouter, Clara, que c'est de la Routa que partent également des obus et des roquettes en direction de Damas qui se trouve à quelques kilomètres seulement. Ces tirs ont fait une vingtaine de morts depuis le début du mois et cela, le régime qui tient la capitale ne peut pas l'accepter, d'où sa volonté d'en finir définitivement avec cette poche de résistance.
Alors l'ONU appelle à cesser immédiatement les bombardements de civils, mais la parole de la communauté internationale semble inaudible. Vous avez rencontré Valérie, un médecin qui souhaite l'alerter tant bien que mal.
Il s'appelle Raphaël Pitti, il était la semaine dernière à l'Assemblée nationale, aux côtés du porte-parole des casques blancs syriens, ces secouristes qui interviennent pour sauver les civils. Raphaël Pitti a pris à partie les autorités françaises et européennes qui, dit-il, ont laissé tomber la Syrie.
Nous sommes devant la catastrophe humanitaire la plus importante depuis la dernière guerre. Mais ça, vous le savez, je suis allé 21 fois en Syrie. 21 fois en Syrie. Pour voir un peu progressivement comment ce pays descend dans un enfer progressif. Et je le sais parce que nous avons un réseau de gens que nous avons formés, plus de 9000 personnes. Et par WhatsApp, immédiatement, je suis au courant de ce qui se passe dans chacun des hôpitaux. Mais tous les jours, ce pays est détruit. Tous ces jours, ce pays est massacré. Quand est-ce que cela va cesser ? 10 millions de personnes ne sont plus chez elles. Sur 22 millions. Alors, qu'est-ce que nous allons attendre ? Où est la voix de l'Europe ? Nous pourrions au moins parler au nom de l'Europe. Avec la force que nous représentons, où est la voix de l'Europe ? On n'entend pas. L'Europe complètement éclatée après la destruction d'Alep et la reprise. Chacun, avec la crise migratoire, s'est renfermé sur lui-même. Où est l'Europe ? Où est la France ? Où est l'Europe ? Alors je pose la question, nous allons nous réunir encore ce soir pour voir le malheur du peuple syrien ? Pourquoi ? Pour le constater encore une fois de plus pendant 7 ans ? Et nous, l'année prochaine, nous allons nous retrouver de nouveau pour dire il y a encore plus de morts ? Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tous les progrès que nous avons faits pendant les 50 derniers du XXe siècle, pour justement qu'il y ait un droit international, tout cela est un véritable déni aujourd'hui au XXIe siècle.
Des morts et des blessés par centaines donc en Syrie et un régime de Bachar el-Assad qui n'est plus aussi inquiété qu'il y a 7 ans au début de la guerre. Preuve d'ailleurs, les forces pro-gouvernementales pourraient aussi se déployer au nord d'Alep, dans la région d'Afrin, et cela au secours des Kurdes qui sont visés par la Turquie, Valérie.
C'est une question d'heure si l'on en croit l'agence officielle Sana. Les milices kurdes YPG ont passé un accord militaire avec le régime de Damas pour faire face à l'offensive turque. Les Kurdes échaudés par la visite et les propos du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, plutôt conciliant la semaine dernière à Ankara, craignent de se retrouver pris au piège. Ils ont demandé aux forces syriennes de s'interposer face à l'armée turque en prenant le risque de perdre cette enclave qu'ils gèrent sur le plan administratif. Damas pourrait en effet être tenté d'en reprendre totalement le contrôle.
Merci Valérie Crova du service international de France Culture pour ces précisions ce matin. Mahmoud Abbas s'exprimera devant l'ONU cet après-midi. Le président de l'autorité palestinienne vient y plaider une approche internationale du processus de paix et un statut de membre à part entière de la Palestine aux Nations Unies. Mais les positions de chacun depuis la déclaration américaine de Jérusalem semblent figées. Les États-Unis, dotés d'un droit de veto, rappelons-le, ont le champ libre pour mettre en place leur processus de paix dans la région. Allons à présent en Ukraine, où des milliers de mineurs sont en grève depuis presque une semaine parce qu'ils ne sont pas payés. Le ministère de l'Énergie et de l'Industrie, hier, assure avoir remboursé les impayés accumulés en 2017, l'année dernière. Mais le reste, pour les premières semaines de 2018, n'a pas été versé, Nadine Epstein.
On n'est plus payé depuis décembre, explique un mineur de 30 ans qui, avec ses collègues, bloque les routes d'accès aux mines. On stoppe chaque bus, on fait descendre tous ceux qui travaillent à extraire la houille, on ne laisse passer que ceux qui assurent la maintenance. La majorité des 10 000 employés des 4 plus grosses mines de l'Est de l'Ukraine sont en grève pour réclamer leur salaire, en moyenne l'équivalent de 178 euros mensuels. Les pouvoirs publics ukrainiens assurent avoir remboursé une dette d'environ 11 millions d'euros accumulée en 2017, mais c'est de la poudre aux yeux, réagit un mineur qui dénonce l'opacité du fonctionnement de l'entreprise publique. Personne ne sait à qui on vend notre charbon. Tout est entouré de secrets, explique un autre mineur. L'Ukraine compte presque 150 mines de charbon, principalement situées dans le riche bassin houiller du Donbass. Mais de nombreux analystes dénoncent depuis des années la corruption qui existe dans les mines publiques, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres secteurs de l'économie ukrainienne. Un expert détaille, les arriérés de salaire sont instrumentalisés par des responsables du secteur minier pour obtenir des hausses de subventions et des tarifs pour l'achat de charbon qui viennent ensuite alimenter la corruption. Les deux tiers des mines de charbon se trouvent actuellement sur le territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes. La totalité des arriérés de salaire des mineurs ukrainiens atteint 25,8 millions d'euros, assure le syndicat indépendant des mineurs.
L'ONG britannique Oxfam aura attendu 10 jours pour présenter officiellement ses excuses. Excuses envers les autorités haïtiennes après les révélations de plusieurs scandales sexuels impliquant des membres de l'organisation caritative, en Haïti notamment avec de jeunes prostituées. Oxfam va devoir s'en expliquer aujourd'hui devant les parlementaires outre-Manche. Et les accusations sont lourdes. Dans un rapport rédigé en 2011, on y lit clairement que les comportements de harcèlement, d'intimidation et les violences sexuelles étaient connus des responsables d'Oxfam. Témoignage à l'appui, Antoine Gignot.
Elle avait 16 ans, il en avait 61. Dans le rapport de 11 pages, Michel-Ange Gabou raconte en détail qu'elle a couché avec le directeur local d'Oxfam. Il lui donnait en échange de l'argent et des couches pour son nouveau-né. Il y avait, dit-elle, beaucoup de filles. D'autres employés sont accusés de harcèlement, de tentatives d'intimidation. Tout est consigné, noir sur blanc, y compris le licenciement pour faute grave de 4 personnes, la démission de 2 autres et le départ du directeur. Un départ digne, ce sont les mots utilisés, à condition qu'il coopère pour faire avancer l'enquête. C'est absolument horrible, commente à Londres la première ministre Theresa May. Mark Goldring, le directeur actuel d'Oxfam au Royaume-Uni, reconnaît que le rapport, rédigé il y a 7 ans, aurait dû être rendu public bien plus tôt. Il affirme que les noms des employés incriminés ont été donnés à la police et que le texte va être envoyé en intégralité aux autorités haïtiennes.
En France, c'est un syndicat étudiant, l'UNEF, qui fait la une des médias d'un journal, plus précisément Libération ce matin. Le quotidien publie de nouveaux témoignages de femmes racontant le harcèlement sexuel, les agressions, parfois même des viols commis entre 2007 et 2015. Le syndicat étudiant proche du Parti Socialiste avait déjà été pointé du doigt en novembre dernier. Des plaintes ont été déposées.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Guillaume Pépi s'exprimait ce matin pour la première fois depuis la remise du rapport Spinetta sur la SNCF. SNCF.
Ce rapport qui entend donner des pistes pour réformer l'entreprise ferroviaire publique. Son patron était chez nos voisins de France Info au lendemain d'une réunion à Matignon auprès d'Édouard Philippe. Le gouvernement et le rapport Spinetta envisagent de revoir le statut des cheminots nouvellement intégrés. Une mobilisation est déjà annoncée par la CGT Cheminots et par Force Ouvrière le 22 mars prochain. Guillaume Pépi leur a répondu ce matin en tentant de les rassurer.
Plus il y a d'explications, moins il y a de tensions. Et donc, on est dans la période où il faut mettre le sens des choses. Le sens des choses, c'est pas de réduire le train, c'est d'augmenter le train. C'est pas de mettre moins d'argent, c'est mettre mieux d'argent. Et c'est de faire en sorte que les Français soient, on va dire, plus satisfaits de leur chemin de fer. Ces objectifs-là, tout le monde y a intérêt. Les cheminots, les syndicats de cheminots, ils ont intérêt à ce qu'il y ait un avenir pérenne pour la SNCF. Donc moi, je suis persuadé que la concertation, la négociation vont permettre d'éviter une grande grève. Donc,
vous ne croyez pas au scénario de la grande grève du printemps que quand même plusieurs experts anticipent ?
Non, mais en France, tout le monde adore se faire peur et adore dire que la France n'est pas réformable. Moi, je connais les cheminots, je sais qu'ils ont trois qualités. D'abord, un savoir-faire incomparable. Ensuite, c'est des gens qui sont incroyablement engagés pour le train. Et la troisième chose, c'est des gens qui savent s'adapter. Regardez les évolutions que la SNCF a connues depuis 10 ou 15 ans. Ça montre une sacrée capacité d'adaptation.
Et Guillaume Pépi et ses arguments. Au micro de Raphaël Ebenstein, le patron de la SNCF, refuse par ailleurs toute privatisation de l'entreprise. Le fonctionnement de Fessenheim est perturbé depuis hier. Une partie des salariés de la centrale nucléaire s'est mise en grève à l'appel de la CGT et de Force Ouvrière. Ils demandent une amélioration des mesures d'accompagnement pour les 750 salariés touchés par la fermeture du site d'ici 2019. Une nouvelle réunion avec EDF est prévue aujourd'hui à Paris. Une djihadiste française, bientôt de retour sur le territoire. Âgée de 27 ans, elle avait rejoint l'Irak avec son compagnon et ses trois enfants en octobre 2015. Elle a été arrêtée à Mossoul, placée en détention pendant 7 mois, puis condamnée, mais pas pour terrorisme, Florence Turm.
7 mois de prison pour entrée illégale sur le territoire irakien, Mélina Boujedir a accueilli le verdict avec le sourire. La peine couvre sa détention et la justice irakienne n'a pas retenu contre elle une accusation de terrorisme, alors que la veille, une ressortissante turque avait été condamnée à mort par cette même cour pénale, tout comme le mois dernier une djihadiste allemande pour appartenance et soutien à l'organisation État islamique. Après avoir obtenu en décembre le rapatriement de ses trois plus grands enfants en France, les avocats de Mélina Boujedir ont adressé le mois dernier une lettre au président Emmanuel Macron lui demandant une mobilisation sans faille si une peine capitale devait être prononcée à l'encontre de la jeune femme. Au moins deux autres Françaises sont actuellement détenues en Irak pour des faits similaires et elles réclament le droit de pouvoir être jugées en France. Mélina Boujedir, elle a été placée dans un centre de rétention dans l'attente de son transfert vers Paris qui sera organisé sous escorte de membres des forces spéciales. Dès son arrivée sur le sol français, la jeune femme sera placée en garde à vue. Elle fait l'objet d'un mandat de recherche dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en août 2016 pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Son compagnon, déjà condamné en France pour son implication dans le groupe radical islamiste Force Analisa, était également recherché, mais il aurait trouvé la mort dans les bombardements irakiens lors de la bataille de Mossoul.
Doit-on ouvrir toutes les bibliothèques de France le soir et le dimanche ? L'exécutif le souhaite, mais il a commandé à l'écrivain Éric Orsonna un rapport. L'académicien a fait un tour de France pendant 3 mois. Il dévoilera ses conclusions ce matin en présence du chef de l'État dans la médiathèque des Mureaux, dans les Yvelines. Lui a sa place dans les bibliothèques et à Paris pour l'éternité. C'est l'épilogue d'une longue polémique. L'écrivain et académicien Michel Déon aura bien une sépulture parisienne. La mairie l'a annoncé à sa famille hier, plus d'un an après la mort de l'auteur de Taxi Mauve. Sa fille le réclamait depuis des mois. Elle a été soutenue hier par une centaine d'auteurs et éditeurs, signataires d'une pétition dans le Figaro. Et ils ont donc obtenu gain de cause, Charlotte Lalanne.
L'affaire avait mis d'accord des auteurs aux opinions si diverses qu'Éric Orsenna, Alain Finkielkraut, Eliette Abécassis ou Milan Kundera, 4 des 106 signataires de la pétition pour l'inhumation de Michel Déon à Paris. Certains voyaient dans ce refus de la mairie socialiste des intentions idéologiques, car Michel Déon, royaliste, maurrassien, avait le cœur résolument à droite. Rien à voir avec la politique, rétorque la mairie. Michel Déon ne remplissait tout simplement pas les conditions pour être inhumé à Paris. Il n'y était ni domicilié, ni électeur, ni décédé dans la capitale. Bruno Julliard, premier adjoint en charge de la culture.
La loi ne nous l'interdit pas, simplement ça n'était pas une règle que nous appliquions à Paris, ce type de dérogation, pour une raison simple, c'est qu'il y a à peu près 5000 demandes de sépultures sur le territoire parisien pour uniquement 150 places disponibles. Et donc les services de la ville sont très hostiles à mettre en place ce type de dérogation. Mais c'est la particularité française, c'est aussi cette exception culturelle française qui fait que nous sommes aussi prêts à ce type de dérogation et d'exception pour honorer des grandes personnalités, en l'occurrence là un grand écrivain qui aura marqué par son œuvre la culture parisienne et française.
C'est donc la grandeur du personnage qui vous a fait changer d'avis, pas la polémique?
Non, je n'ai aucun problème à dire que l'ensemble des mobilisations qui ont pu avoir lieu, de grandes figures intellectuelles et notamment de grands écrivains, a joué dans le choix politique.
La fille de Michel Déon saura dans les prochains jours dans quel cimetière parisien les cendres de son père pourront être inhumées.
Des nouvelles d'une autre académicienne décédée elle aussi l'an dernier, Simone Veil, ancienne ministre, fera son entrée au Panthéon avec son époux le 1er juillet prochain. Annonce faite hier soir par l'Elysée. Le temps très rapidement de ce mercredi, pluvieux dans l'ensemble. Seule une bande le long des frontières de l'Est sera ensoleillée. Les températures comptaient 1 à 3 degrés seulement à l'Est, 8 à 11 sur l'Ouest.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à faire de la météo vu que c'est pluvieux tous les jours? Clara Lecoq Réal, le moral du pays baisse du
coup. N'aimez pas la pluie, Guillaume?
Non, là, je crois que j'en ai assez. Je préfère encore les pommes bio comme ce que vous mangez. 8h15 sur France Culture.